Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par Grisby. Donc on se rapproche de la fin d'année, on se rapproche à grands pas. Pour ceux qui se posent la question aujourd'hui de réduire leur impôt sur le revenu, il est grand temps de se positionner et de prendre des décisions. Vous le savez, il existe de nombreuses solutions pour réduire sa fiscalité, pour réduire son impôt sur le revenu. Aujourd'hui, on a voulu mettre les projecteurs sur deux solutions qu'on apprécie en particulier chez Grisby, le fameux PER, le plan d'épargne retraite, et puis également l'investissement forestier. On a la chance d'avoir deux partenaires experts de ces sujets-là, partenaires de Grisby depuis pas mal d'années maintenant, de nombreuses années. Merci à Bruno et Mathieu d'avoir accepté notre invitation. Bruno Dérès, Bruno Laurenceau, Mathieu Floch de France Vallée. Et puis on a la chance aussi d'avoir Frédéric de Grisby qui interviendra. D'ailleurs, je vais vous laisser la parole à tous les trois pour vous présenter. Mathieu, si tu veux commencer.
Oui, bonsoir à tous. Donc, Mathieu Floch, je suis responsable des partenariats chez France Vallée. Je vais vous présenter l'investissement forestier dans le cadre de la défiscalisation.
Ah bah très bien. Moi, j'ai une image un petit peu figée, Mathieu, mais ça va certainement revenir tout à l'heure.
Ça roule.
Merci beaucoup, Mathieu. Bruno?
Merci Maxime de nous recevoir. Donc, Bruno Laurenceau, je suis expert épargne retraite, épargne salariale chez RS. Donc, passionné de la matière, cela fait approximativement 18 ans. Voilà.
Parfait, merci. Bruno, Frédéric?
Et bonjour à tous, Frédéric Biedlockner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en charge de tout ce qui est marketing et communication chez Grisby. Et donc, je suis directeur associé de la société.
Parfait. Donc, je le rappelle, vous avez la possibilité de poser des questions à l'écrit grâce à l'outil que nous utilisons. N'hésitez pas. C'est toujours très intéressant justement de répondre à vos questions, de générer de l'interactivité. Bruno et Mathieu sont là justement pour vous aider à y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas. Bruno, c'est avec toi qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le PER, le plan d'épargne retraite, vient de souffler sa troisième bougie. Ça reste un investissement tout neuf, mais qui rencontre un succès colossal. Quand on avait fait un premier webinaire il y a 2 ans sur le sujet, il y avait eu 2 millions d'ouvertures de PER. On a dépassé les 6 millions. Le succès est vraiment phénoménal. J'aimerais bien savoir, on aimerait bien avoir ton avis sur justement les raisons de ce succès qui est absolument très important et au-delà de ce qu'on aurait pu espérer.
Effectivement, tu as raison, Maxime. Il y a 2 ans, on était à 2 millions de souscriptions. Aujourd'hui, un peu plus de 6 millions de PER qui ont été souscrits. L'objectif, du gouvernement a été largement dépassé. Donc, on souhaitait atteindre fin 2022, 50 milliards. On est un peu plus de 70 milliards. Donc, ce qui veut dire qu'on est en face d'un réel succès. L'outil, il est simple. Il est compris des épargnants. Donc, il y a une liberté total, que ce soit en termes de sortie et en termes d'alimentation. Donc, on a cette logique de compartiment. Il y a trois compartiments qui cohabitent. Compartiment individuel qui permet de recevoir les versements individuels que l'on soit salarié ou travailleur non salarié. Donc, on vient pouvoir flécher l'ensemble de ces versements. On a également ce compartiment collectif pour lequel l'entreprise, on va pouvoir notamment venir placer en tant que salarié, son intéressement, sa participation, son abondement et ainsi que son transfert de jours de repos. Et enfin, tout ce qui est retraite supplémentaire est géré au sein de ce compartiment numéro 3. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'on a un bagage qui va nous accompagner tout au long de notre vie, tout au long de notre carrière. Et on va pouvoir aussi le faire gérer, je dirais, par des spécialistes de la gestion de patrimoine. Envisager notamment des outils de transmission. Avec ce PER individuel assurantiel, on va bien sûr pouvoir préparer sa retraite, diminuer sa pression fiscale et enfin envisager des stratégies qui vont être différentes à la fin en fonction du compartiment dans lequel je suis. Si je veux me payer un petit voyage de 10 000 euros quand je pars à la retraite, pourquoi pas? Si je veux faire une décumulation en rente viagère, je pourrais également le faire, me protéger ainsi que mon conjoint sur cette partie de versement qui arrivera chaque mois ou chaque trimestre. Et pourquoi pas aussi envisager une partie qui soit en transmission. Donc, on est en face d'un outil patrimonial par excellence. Est-ce qu'il est indispensable ou pas, ou incontournable? Je pense qu'on va essayer d'y répondre tout à l'heure. Enfin, je l'espère, Maxime.
Oui, tout à fait. La solution PER est une solution qui est de plus en plus connue, notamment parmi nos clients et les participants à ce webinaire. Néanmoins, ça vaut le coup d'y revenir en quelques mots. Est-ce que tu peux nous éclairer, Bruno, justement, sur le fonctionnement? Tu nous as déjà donné quelques éléments, mais pour compléter, développer un peu sur la partie fonctionnement du PER.
Effectivement, donc nous, l'objet de ce jour, on va parler effectivement des paires individuelles assurantielles, mais aussi des paires qui sont souscrits par l'entreprise, on parle de paires collectifs, et des paires aussi obligatoires, donc de successeurs de l'article 83. Fonctionnement du PER, très simple, on a un compte individuel acquis. Donc, c'est un contrat qui m'appartient, je verse à mon rythme, en fonction, je dirais aussi, de la déductibilité que je vais aller chercher, en fonction aussi de mon épargne que j'ai acquise et aussi en fonction de la protection que demain je recherche en matière d'épargne retraite. Ça, c'est le fonctionnement. Et finalement, plus je suis imposable, moins ça me coûte de verser. C'est aussi l'un des avantages du plan d'épargne retraite. On va prendre l'exemple le plus simple à calculer. Je suis imposable au maximum qui est 45% du taux marginal d'imposition. Je fais un versement de 10 000 euros. Ça représente en réalité un effort d'épargne de 5 500 euros. On verra peut-être tout à l'heure si c'est 10 000 euros, si cet avantage peut être conservé. En sortie, donc après j'aurai le choix quand je verse dans un compartiment individuel, je peux sortir notamment pour l'achat de la résidence principale. Donc ça me permet de constituer une partie de mon apport. Je peux également sortir à l'âge légal de départ en retraite qui est aujourd'hui de 62 ans. Donc si j'ai liquidé un régime de retraite complémentaire, je pourrais même sortir avant cet âge légal de départ en retraite. Enfin, on a quand même entendu parler il y a peu des évolutions réglementaires en matière d'épargne retraite. Pourquoi pas, certainement cet âge légal de départ en retraite va être allongé. Enfin bon, nous n'écrivons pas la loi, donc ça, on ne va pas rentrer dedans. Avantage par rapport aux anciennes solutions, c'est qu'aujourd'hui, mon ancien contrat Madelin, mon ancien contrat PERP, finalement, je n'avais pas d'autre choix que de sortir en rente viagère, ou en tout cas, je pouvais sortir uniquement 20% en capital sur le PERP. Là, je peux tout réaliser en termes de liberté, sortir du capital, sortir une partie en rente. Puis je pense que surtout, ce qui va être plus efficace, c'est notamment l'optimisation aussi de l'imposition en sortie, donc procéder par rachat fractionné. Vous l'avez compris? Quand je verse, j'ai une déductibilité en fonction de ma taux marginal d'imposition quand je verse. Donc, en tant qu'actif, j'ai généralement deux fois plus de revenus que quand je suis retraité. Donc, on est sur un taux d'imposition qui est le plus fort. Et quand je vais être retraité, donc je vais pouvoir ressortir notamment mon contrat. Et l'idéal est de le faire de façon fractionnée. Mais j'espère qu'on va parler notamment de la transmission, qui est pour moi l'un des cas les plus favorables. C'est une solution qui échappe notamment aux niches fiscales. Donc, c'est aussi un argument assez intéressant quand on veut diminuer sa pression fiscale.
Merci, Bruno, pour cet éclairage sur le fonctionnement, en tout cas les principes de fonctionnement du PER. On entend, c'est une solution dont on en entend beaucoup parler. On a évoqué le succès phénoménal de cette solution depuis son lancement. Et ça continue de plaire à de plus en plus de Français. On comprend bien pourquoi. On peut lire des communications assez agressives parfois, et certains disent ou peuvent écrire même que le plan d'épargne retraite s'adresserait à tout le monde. Tout le monde devrait souscrire à un plan d'épargne retraite pour préparer son avenir et sa retraite en particulier. Moi, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu es en phase avec ça, ou est-ce que justement ton avis, celui des RS, est intéressant, oui, puisque vous avez une expertise très très forte sur le sujet?
Alors, premièrement, le PER, moi je serais un peu plus mesuré sur cette affirmation. Je dirais, il faut que ça s'adapte aux besoins du client. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Quel est mon taux d'imposition? Comme on parle souvent de tranche marginale d'imposition, taux marginal d'imposition. Quels sont mes objectifs en termes de placement? Quelle est ma trésorerie? Est-ce que j'ai bien sûr calculé mes besoins quand je vais être en phase de décumulation, donc quand je vais être retraité? Pour beaucoup de Français, on va quand même perdre la moitié de ses revenus quand on passe retraité. Donc, est-ce que j'ai anticipé toutes ces situations-là? Est-ce que j'ai des anciens contrats d'épargne retraite? Est-ce que j'ai une volonté de transmettre? Aujourd'hui, on est en face d'un couteau suisse, donc il permet énormément de choses. Il y a aussi des stratégies qu'on n'a pas évoquées, donc, notamment ouvrir un contrat plan d'épargne retraite pour des enfants, qui vient aussi diminuer la pression fiscale du foyer. Donc, pour tout un tas de raisons, je dirais cet outil, il est incontournable et surtout très complémentaire de l'assurance vie. Donc, c'est ça, j'apprécie, je sais que chez Grisby, vous avez notamment cette approche globale. Il y a l'assurance vie, effectivement, souplesse absolue. Le PER, on est en face d'un outil qui nous permet énormément de choses, notamment en termes patrimonial, ce qui s'adapte à tout le monde. Nous, on va plutôt privilégier, en tout cas, les personnes qui ont un taux marginal d'imposition qui démarre à 30%. Voilà, pour être tout à fait complet. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des objectifs de retraite, est-ce que je veux préparer aussi l'achat de la résidence principale de mes enfants? Voilà, il y a tout un tas d'autres cas de figure qui sont intéressants et qu'il convient d'étudier. Donc, l'approche expert pour s'intéresser au PER est pour moi indispensable.
Oui, très bien. Merci pour cette réponse, Bruno. On a une question d'une participante qui souhaite qu'on évoque les risques. On avait bien sûr prévu de le faire, mais on peut l'évoquer maintenant. C'est notamment en lien avec la réponse que tu viens d'apporter sur le fait qu'il faut être vigilant sur le profil de l'investisseur et pas foncer tête baissée pour souscrire un PER, quelle que soit sa situation et son niveau de fiscalité. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur les risques ou en tout cas les points de vigilance associés au plan d'épargne retraite?
Pour moi, effectivement, les risques s'y situent notamment au niveau des transferts. Donc, la liberté aujourd'hui qui est offerte de sortie en capital tout ou partie, elle est très intéressante. Donc, c'est sûr que entre un choix de rente viagère ou un choix de capital et ou rente, forcément, si j'ai tous les choix possibles, j'ai tendance à me dire, c'est là où mon choix va se porter. Ça, c'est la première chose. En revanche, le fait de transférer son épargne, par exemple, d'un contrat Madelin vers un contrat PER, me fait potentiellement perdre des garanties techniques qui étaient attachées à mon ancien contrat. Donc ça, c'est très important. Et surtout, la loi Pacte qui a créé le PER en 2019, elle est venue renforcer ce devoir de conseil. Donc, je dois comparer mes garanties anciennes aux garanties futures, et notamment dans les étapes significatives de la vie du contrat. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est bien sûr étudier son contrat, regarder s'il y a des garanties de table, des garanties de taux techniques. Ça, ce sera expliqué, bien sûr, par le conseiller. Pourquoi ? Vous avez des contrats qui sont très, très avantageux, donc pas forcément intérêt à le transférer. Ça, c'est le premier point. Très avantageux. Et puis surtout, vous pouvez très bien avoir conservé votre ancien Madelin s'il a des garanties très fortes et ouvrir à côté votre enveloppe PER pour avoir cette liberté en sortie. Donc, étudier les contrats, c'est pour moi ce qui est de plus indispensable pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis.
Très bien. Tu as effleuré le sujet de la transmission tout à l'heure, Bruno, sans en dire plus. Est-ce que justement tu peux nous expliquer pourquoi le plan d'épargne retraite est une solution à étudier de près dans une logique d'optimisation et de préparation de sa transmission?
Alors, j'ai une affirmation pour toi, Maxime, et pour l'ensemble, je dirais, des personnes qui nous écoutent. La transmission via le PER individuel assurantiel est plus efficace que l'assurance vie si l'on veut protéger son conjoint ou le partenaire de PACS. Ça, il faut que vous en soyez convaincu. Donc, l'avantage du PER, c'est que, bien entendu, on va bénéficier des mêmes régimes d'abattement que l'assurance vie. Donc, sans rentrer dans les détails, le 757B et 990I du Code général des impôts. Donc, à la différence près qu'en assurance vie, on va regarder l'âge à laquelle le versement est effectué sur le contrat. Côté PER, on va regarder l'âge à laquelle je suis malheureusement décédé. Donc, on a bien les abattements de 152 500 par couple bénéficiaire si je suis décédé avant 70 ans. Vous allez me dire, du coup, avantage net à l'assurance vie. Certes, mais il y a un cas de figure qui est plus intéressant côté PER, c'est que si je décède et que mon conjoint bénéficiaire du contrat, mon conjoint est toujours exonéré de droits de mutation. Autre avantage côté PER, c'est qu'il y a une exonération des prélèvements sociaux sur les plus-values. Donc, ce qui veut dire que finalement, je transmets l'intégralité de mon contrat. Un exemple, j'ai une TMI à l'entrée de 30%, je fais un versement de 10 000 euros, donc ça mobilise une capacité d'épargne, par exemple, de 7 000 euros. Je fais cette opération pendant 20 ans, donc j'ai un versement globalisé qui a été de 200 000 euros. En réalité, ça m'a coûté 140 000 euros en termes de capacité d'épargne. Un contrat qui est bien géré, et notamment un contrat RS, avec une plus-value du coup au bout du compte de 100 000 euros, donc on arrive avec un capital de 300 000 euros. Donc, si c'est mon conjoint qui bénéficie de la transmission, je transmets les 300 000 euros, l'intégralité du contrat, alors que ça m'a coûté 140 000 euros. Donc, vous voyez, on est sur un outil transmission bénéficiaire le conjoint qui est aujourd'hui formidable. Effet de levier avec l'économie d'impôts générée, plus-values qui sont exonérées de prélèvements sociaux. On n'a pas mieux aujourd'hui en matière de protection du conjoint. Donc, je pense que c'est une solution à avoir à l'esprit. On peut, bien entendu, sur un PER individuel assurantiel, faire aussi du démembrement, ce qu'on fait en assurance vie. Donc, pourquoi pas le faire aussi côté PER. En matière de clause bénéficiaire, on voit que c'est l'âge du décès. Donc, pourquoi pas préciser que les enfants avant 70 ans sont les bénéficiaires si l'on veut bien sûr transmettre aux enfants et après 70 ans, privilégier le conjoint. Donc, tout ça est possible. Les abattements sont globalisés avec l'assurance vie hein, pour être aussi exhaustif. Donc, ce qui veut dire que si j'ai déjà purgé mes plafonds d'abattement côté assurance vie, j'en ai pas de nouveaux qui viennent se créer côté PER, vice-versa. Mais on est en face d'un outil qui permet énormément de choses.
Très bien. Un petit mot sur la défense des épargnants. On t'a sollicité, Bruno, pour participer à cet événement, à ce webinaire sur la défiscalisation et plus particulièrement sur la présentation du PER. Il y a plein de raisons pour cela. IRES, je le disais tout à l'heure, c'est un partenaire historique de Grisby et qui a développé une expertise extrêmement forte sur le sujet de l'épargne retraite en particulier. Vous travaillez main dans la main avec une association, je veux bien que tu nous en parles également. Et puis un mot sur la gestion aussi associée, proposée par RS à travers ces plans d'épargne retraite.
C'est effectivement un point important et qui avait notamment été créé pour les PERF à l'origine. Donc on a une association, PERF en l'occurrence pour les PER qui sont créés par RS. C'est une association indépendante. Et donc, qui vient souscrire pour le compte de ses bénéficiaires les PER auprès des assureurs. Je vous passerai notamment les articles L141-7 et suivant du Code des assurances qui permet justement la création de ces associations d'épargnants. Leur but, il est simple, c'est défendre les intérêts des épargnants. Donc, c'est faire un contrepoids vis-à-vis de l'assureur. Donc, les épargnants se regroupent avec une association et ils vont ainsi faire chaque année des assemblées, s'assurer qu'il y ait une bonne gestion opérationnelle des dispositifs et puis aussi proposer des améliorations en matière de placement financier. Ils émettent également un avis sur la politique de participation aux bénéfices, ce qui est intéressant pour la partie fonds en euros. Et enfin, ils sont là aussi pour accompagner la promotion de l'information des PER qui ont été souscrits par ailleurs. Donc, l'avantage aussi de cette association d'épargnants, c'est qu'elle est purement indépendante, c'est un contrepoids de l'assureur.
Très bien. Et sur la gestion proposée au sein de, enfin par RS au niveau des plans d'épargne retraite?
Vous l'avez compris, on est très attaché à la liberté. Donc, c'est également le concept qu'on attache également à la possibilité de gestion financière. On a possibilité de faire des placements immobiliers en SCI, en SCPI, notamment sur la partie SCI. On peut être investi à 100% si on le souhaite. On a également intégré des fonds de private equity pour être un peu désensibilisé de la partie des marchés financiers. Gestion libre et gestion pilotée, on peut également le combiner au sein de l'un de nos PER. Enfin, on va quand même parler un petit peu de la gestion pilotée, hein, qui est la gestion par défaut, qui a été souhaitée par le législateur. On a trois grilles réglementaires, donc en fonction de son aversion au risque. Plus je me rapproche de mon horizon de sortie, plus mon placement par défaut vient, je dirais, se sécuriser. On a aussi la possibilité dans les gestions pilotées RS de combiner avec une des quotes-parts en immobilier. On constate notamment la pertinence de cette gestion avec la volatilité qu'on a connue des marchés financiers cette année. Je dirais cette partie immobilière, cette poche immobilière qu'on peut combiner entre 20, 30 et 40 % permet d'amortir tous ces effets de marché qui sont parfois un petit peu pénibles, on va le dire comme ça.
Comme on est sur la description des plans d'épargne retraite et justement les différences entre les différents PER, on peut se poser la question de savoir, au-delà de la gestion, est-ce qu'il y a des vraies différences, de nombreux, comme des contrats d'assurance vie, il y a de nombreux PER qui sont aujourd'hui disponibles. Est-ce qu'ils se valent tous et à quoi faut-il faire attention quand on a décidé d'investir sur un PER, mais on ne sait pas encore lequel choisir?
Alors, je pense qu'il faut que ça réponde déjà aux premiers besoins du client. Nous, on privilégie bien sûr la liberté que nous permet la réglementation. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, on le voit sur le marché, tous les PER effectivement ne se valent pas. Et à moins d'être un expert et lire les conditions générales des contrats, les conditions particulières, je crois que peu d'épargnants le font, mais tous ne se valent pas. En l'occurrence, l'univers d'investissement, c'est une chose qui est importante. Et je vais insister aussi sur un point qu'on nommait, hein, outre les frais que je passerai, la liberté en sortie, elle est également importante. Vous avez des contrats aujourd'hui pour lesquels vous êtes contraint par le nombre de rachats. Il y a notamment aussi un contrat qui oblige la sortie en rente viagère que vous devez décider à l'origine du contrat. Et il y a des contrats aussi parfois où on va également vous imposer un rythme de sortie. Donc ça, c'est des contrats où, à moins de savoir bien décrypter les conditions générales des contrats, qui offrent une souplesse un peu moins forte, ce qui est, je dirais, est pas compatible avec ce que souhaitait le législateur, en tout cas ce que permet le législateur. Vous avez aussi des contrats pour lesquels, arrivé à un âge donné, prenons un exemple, 75 ans ou 80 ans, on va vous imposer aussi une sortie. Donc, la partie transmission qu'on a abordée tout à l'heure, elle devient dès lors impossible. Donc, avant de souscrire, je dirais, il faut déjà savoir avec quel acteur on le fait et aussi pourquoi on le fait, toujours dans cette approche globale.
Très bien. Je regarde, on a un certain nombre de questions, hein, qui nous sont posées par les participants et je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour toutes ces questions. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on a répondu grâce à ton intervention déjà, Bruno. Je vois une question. Quelle réduction de la fiscalité lorsqu'on ouvre un PER pour un enfant?
Excellente question, effectivement. Alors, premièrement, donc chaque contribuable français, même s'il n'a pas de revenus d'activité professionnelle, on a un minimum qui est corrélé au plafond annuel de sécurité sociale. Ce minimum, il est de 10% du plafond annuel de sécurité sociale, ce qui veut dire que un enfant qui, par définition, n'a pas de revenus d'activité professionnelle, a quand même un potentiel versement de 4 114 euros. Et comme pour un contribuable, je dirais, classique, il y a un report qui vient s'effectuer sur les plafonds qui ne seraient pas utilisés. Donc, ce qui veut dire qu'un enfant qui a 5 ans, grosso modo, il a 4 plafonds d'épargne retraite. Je vais volontairement arrondir, ce qui fait quasiment 16 000 euros. de versement possible. L'enfant étant rattaché au foyer fiscal, la déductibilité, bien sûr, elle arrive au niveau du foyer. Donc, prenons un exemple. Nous avons mamie qui fait un versement en fin d'année, qui profite des fêtes de fin d'année pour faire un versement de 4000 euros à son petit enfant. La déductibilité, elle va arriver. Donc, le contrat de l'enfant, parce qu'il faut ouvrir un contrat au nom de l'enfant, et seul l'enfant peut utiliser son plafond d'épargne retraite. Donc, ça, c'est important. Donc, les 4000 euros arrivent sur le contrat de l'enfant. La déductibilité s'opère au niveau du foyer fiscal. Donc, là, j'ai fait deux cadeaux. Un cadeau pour les parents et aussi j'ai préparé l'acquisition de la résidence principale du petit enfant. Donc voilà un petit peu des schémas qui sont tout à fait pertinents et comment on fait des cadeaux transgénérationnels.
Parfait. Je vais relayer une dernière question qui nous était posée sur justement le PER. C'est autour au sujet de cas de déblocage et notamment du cas de déblocage pour l'acquisition d'une résidence principale. La question est la suivante, est-ce qu'on peut récupérer l'intégralité des fonds investis sur le PER ou on est limité sur les montants? Est-ce que c'est un rachat partiel ou...
J'apprécie énormément cette question, Maxime, parce que...
Je n'en suis pas à l'origine. Hein.
Tu as raison de le préciser. Comme cette question sur l'association d'épargnants, je trouve que cette question elle est tout à fait pertinente et elle est importante. Vous avez cette logique de compartiment, compartiment individuel, compartiment collectif et compartiment catégoriel, on va l'appeler comme ça, le compartiment numéro 3. Donc, sur mon compartiment numéro 1, j'ai fait un versement, j'ai une déductibilité en entrée. Quand je vais ressortir, je vais être fiscalisé sur le montant. Compartiment numéro 2, c'est là le compartiment le plus intéressant, en entrée comme en sortie. Mon abondement, ma participation, mon intéressement sont exonérés de fiscalité en entrée comme en sortie. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui veut dire que parfois, j'ai aussi un choix à opérer entre est-ce que vaut mieux sortir de mon PER individuel, compartiment 1, ou mon compartiment numéro 2. D'accord ? Et donc, vous l'avez compris, le compartiment numéro 2, pas de fiscalité. Donc, j'ai acheté ma résidence principale 150 000 euros. J'ai mis dans mon plan de financement un apport de 50 000 euros. Donc, c'est en fonction du montant de l'apport personnel que j'ai indiqué dans mon plan de financement que je vais pouvoir débloquer mon plan d'épargne retraite. Donc, ce qui veut dire que j'aurai cette enveloppe de 50 000 euros. Donc, si j'ai l'intégralité de l'enveloppe des 50 000 euros qui est sur le PER collectif, donc autant aller sur cette enveloppe-là, elle est exonérée de fiscalité en sortie. Si j'ai, imaginons, 10 000 euros sur mon enveloppe de compartiment collectif et que je veux retirer 40 000 euros côté PER individuel, là, j'aurai une fiscalité sur la partie individuelle et pas de fiscalité sur le compartiment numéro 2. Autre question qu'on peut se poser, avantage en entrée, je paye de la fiscalité en sortie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai dans le projet et dans l'optique d'acheter dans 2 semaines ma résidence principale, faire un versement aujourd'hui pour ressortir dans 2 semaines et que j'ai besoin, bien sûr, de cette épargne, il n'y a pas d'efficacité. Parce que c'est en fonction, bien sûr, de mon taux marginal d'imposition du moment et je n'ai pas de différence entre les deux et l'écart, il est trop faible pour que la capitalisation vienne produire ses effets.
Ok, très bien. On a beaucoup, beaucoup de questions. Malheureusement, on ne pourra pas tous les relayer aujourd'hui. Évidemment, on s'attachera à répondre à toutes vos questions. Juste une dernière, un retraité peut-il ouvrir un plan d'épargne retraite? Si oui, est-ce une bonne idée?
Alors, est-ce une bonne idée? Toujours, mon objectif client. Qu'est-ce que mon client a besoin? Est-ce qu'un retraité peut ouvrir un PER? Oui, bien sûr. Réglementairement, rien ne l'interdit. Quelles peuvent être les stratégies qu'on va rechercher? On parlait tout à l'heure des plafonds d'épargne retraite pour les enfants. Les plafonds d'épargne retraite existent aussi pour les retraités. Jusqu'à 74 ans, je n'ai pas de questionnement à me poser sur la déductibilité. Donc, ça veut dire que j'ai cessé mon activité l'année dernière, j'ai des reliquats de plafonds d'épargne retraite. J'ai, en fin de carrière, eu une indemnité de fin de carrière. Donc, j'ai potentiellement une trésorerie que je veux optimiser. Donc, je peux verser effectivement dans mon PER. compte tenu de ma perte de revenus future, donc j'aurai peut-être un taux marginal d'imposition qui va diminuer. Vous voyez, je vais peut-être gagner avec l'effet de levier. Est-ce que j'ai un objectif de transmission? Mais puis surtout, je peux aussi regrouper des anciens contrats que je n'ai pas pris le temps de transférer. Et donc, je dirais pour tout ça, oui, ça peut être intéressant pour un retraité d'aller ouvrir une enveloppe pour notamment regrouper ses contrats.
Parfait. Merci une nouvelle fois, Bruno, pour cet éclairage très intéressant, très instructif sur le plan d'épargne retraite. Désolé pour toutes les questions auxquelles on n'a pas encore répondu. On tâchera d'y répondre, évidemment, de manière individuelle. On va complètement changer d'univers avec Mathieu Floch de France Vallée. On va passer du plan d'épargne retraite à l'investissement. Ah, pardon, Bruno, désolé.
J'ai une question quand même où je pense qu'il faut insister. La question, c'est est-ce que je peux mutualiser mon plafond et celui de mon enfant rattaché à mon foyer? On l'a dit, mais je préfère le redire hein, si besoin était. La mutualisation est possible uniquement entre les conjoints. Ça, c'est la première chose. Donc, mon enfant doit consommer ses plafonds lui-même. Les parents ne peuvent pas aller consommer les plafonds des enfants. Donc, ça, c'est un sujet qui est important pour éviter de commettre un impair. Et je me tais, mon cher Maxime.
Non, mais c'était important de le préciser. Merci, merci Bruno. Non, je disais, on va changer complètement d'univers, toujours avec une solution qui permet de réduire sa fiscalité, qui s'inscrit dans une logique de diversification. C'est l'investissement forestier à travers notre partenaire France Vallée, expert du sujet depuis pas mal d'années maintenant et qui se développe à vitesse grand V. C'est un sujet qui rencontre un véritable engouement de la part de plus en plus d'épargnants, d'investisseurs. Mathieu, je te donne la parole pour justement tu nous éclaires sur ce qu'on peut faire en matière d'investissement forestier, ce que propose France Vallée, ce que ça permet de générer comme avantage fiscal.
Ouais, merci Maxime. Bonsoir à tous. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous représenter un peu France Vallée, qui on est, comment on fonctionne, quel est vraiment l'univers d'investissement. C'est l'investissement forestier, mais en quoi ça consiste réellement. France Vallée, on est une société de gestion agréée par l'AMF. On existe depuis 2011 et donc du coup, on fait des fonds fonciers forestiers. Aujourd'hui, on gère un peu plus de 500 millions d'euros en actifs sous gestion pour de la forêt. Et ces actifs, ils vont être à la fois en France, qui est notre savoir-faire, puisqu'on achète des forêts depuis 2011 en France, et également en Europe, puisqu'aujourd'hui, on est capable, de par nos réseaux d'exploitants forestiers, d'experts forestiers, d'avoir des fonds qui soient hautement diversifiés et pan-européens, puisqu'on va avoir des forêts qui vont être en Irlande et aussi en Finlande. Le but du jeu, donc on voit tout cet espace européen, c'est d'avoir une grande diversification à l'intérieur de nos portefeuilles et pouvoir permettre à l'investisseur d'avoir une diversification en termes de pays, en termes de climat aussi, puisqu'on va voir c'est un des risques, en termes d'essence. Donc aujourd'hui, ces fonds-là ont un intérêt de plus en plus fort, d'une part d'une réglementation aussi qui va être un petit peu plus stricte et va orienter vers du développement durable. Et d'autre part, on va avoir également un sentiment des investisseurs d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui de l'investissement durable, mais se tourner vers un investissement qui est plus responsable. Alors, en détail, vous allez pouvoir investir aujourd'hui avec France Vallée et dans ce que peut vous proposer les différents conseillers Grisby, à la fois des solutions qui seront 100% en France et d'autres qui seront à l'échelle européenne. Dans leur conception, nous, on construit les fonds exactement de la même façon, mais vous verrez tout à l'heure, on a différents critères et de critères fiscaux, en quelque sorte, qui vont rentrer en jeu et qui vont alors différencier vraiment, suivant votre besoin en tant qu'investisseur, le choix s'il va se porter plus sur de la France ou plus à l'échelle pan-européenne. Alors, pour vous donner aussi un peu plus d'idées sur l'investissement forestier, sur nos produits, en fait, vous allez, si vous connaissez le principe d'une SCPI, vous allez rapidement comprendre le fonctionnement d'un produit forestier, puisque ce sont des produits de mutualisation. Vous n'allez pas être investi sur une forêt, mais vous allez avoir des parts de différentes de différentes forêts. Enfin, vous allez avoir plusieurs forêts à l'intérieur d'un fonds, donc vous allez avoir des parts. Et donc, c'est ça qui va vous offrir aussi une grande diversification en termes d'investissement. On a un vocabulaire qui est tout à fait comparable à ce qui existe sur les SCPI. On parle souvent de cette comparaison avec ces actifs immobiliers, puisqu'on va parler d'une valeur de souscription, une valeur de retrait, une valeur de reconstitution, une valeur de réalisation. Donc, tous ces critères aussi que vous connaissez dans l'investissement immobilier, vous allez les retrouver aussi sur l'investissement forestier. Comparaison aussi sur le risque financier. On est sur un produit qui va avoir un SRI de 3 sur 7, ce qui est comparable, là aussi, avec de l'immobilier. Donc, vous voyez, c'est certains éléments que vous allez pouvoir retrouver dans nos fonds aujourd'hui en France et en Europe. Alors, il y a beaucoup d'avantages à investir sur de la forêt, mais comme on l'avait discuté, Maxime, ensemble, je vais d'abord peut-être commencer par les risques, comme ça, on va pouvoir les écarter. Alors, les risques, ils peuvent être facilement compréhensible, et je pense que les personnes présentes aujourd'hui à ce webinaire les ont bien en tête. Les deux premiers risques qui vont avoir un effet sur la forêt vont être le risque incendie et le risque tempête. Ce sont des risques d'exploitation pour nous en forêt. Alors, il y a différents moyens de le gérer. La première façon de le gérer déjà, que ce soit le risque incendie forêt en France, c'est qu'en France, on a historiquement des produits d'assurance contre ces risques d'incendie et forêt. Donc là, c'est une façon de gérer qui est beaucoup plus simple. Après, l'incendie et la tempête, c'est vraiment un travail d'exploitation au quotidien de par nos exploitants forestiers. C'est le savoir-faire de chacun. Ça va différer des régions. Il y a certaines régions d'Europe qui vont être plus exposées au vent. On pense à l'Irlande, on pense à la Scandinavie, à certains pays baltes aussi qui seront plus exposés au vent. Et là, notre travail et le travail de nos exploitants forestiers, les travaux qui sont mis en place, moi, de mettre en place des parvents, de laisser aussi du bois mort dans ces forêts, afin de protéger. On va aussi planter de façon plus proche, histoire de ne pas avoir créé de couloirs de vent. Et après, bon, la problématique d'une forêt, c'est que l'arbre qui va tomber ne perd pas toute sa valeur. On va pouvoir le vendre assez rapidement, donc c'est un effet qui est aussi moindre pour l'investisseur. Sur le feu et sur l'incendie, là aussi, un travail d'exploitation au quotidien dans nos forêts avec les systèmes de pare-feu. On va aussi travailler les voies d'accès, les voies d'exploitation, qu'elles soient plus larges. On va mettre peut-être plus d'espace entre les parcelles pour éviter d'avoir une propagation du feu. Donc ça, c'est les travaux qui sont au quotidien dans nos forêts. Pour rester sur le risque incendie, on va aussi, et vous le verrez sur nos plaquettes, on va éviter certaines régions européennes, dont le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le sud de la France aussi, tout le pourtour méditerranéen est exclu. On a des essences et des forêts qui sont peut-être de moins bonne qualité de ce qu'on peut trouver ailleurs en Europe, mais c'est surtout parce qu'on a un risque incendie qui est très très fort. Le troisième risque sur la forêt, et c'est là où on va aussi pouvoir parler du réchauffement climatique, c'est un risque phytosanitaire, c'est le risque de maladie qui va lier à la forêt. Et ce risque de maladie, il faut avoir bien en tête que chaque arbre a sa propre maladie. Donc pour vraiment se défendre, et bien il va falloir mutualiser ce risque. Et là, sur la mutualisation du risque, on retrouve à peu près ce qu'on fait aussi sur de l'immobilier. Quand vous voulez mutualiser votre risque locatif à l'intérieur d'une SCPI, ben, plus vous avez d'immeubles, plus vous mutualisez ce risque locatif. La forêt, c'est pareil. Plus on va avoir de forêt, plus on va mutualiser le risque phytosanitaire. Et après, notre façon de gérer va être qu'on va travailler parcelle par parcelle, vraiment dans la forêt. On va essayer d'avoir le maximum d'essence à l'intérieur d'une forêt, puisque certaines essences vont avoir des qualités environnementales et vont aider d'autres essences, peut-être être plus frugales, vont avoir moins besoin d'eau, vont héberger une biodiversité particulière. Et là, ça va être vraiment une autre façon aussi de gérer ce risque phytosanitaire. Donc voilà pour les risques de la forêt, l'incendie, la tempête et le risque phytosanitaire.
Une question sur la durée d'investissement ou la durée d'investissement minimum. Qu'est-ce qu'on peut répondre sur ce sujet de durée d'investissement quand on s'intéresse à un investissement forestier et, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mathieu?
L'horizon de placement qui est conseillé pour de la forêt, c'est 10 ans. Et là, on se rapproche encore une fois, je le répète, mais des produits immobiliers. On est sur 10 ans. Alors après, là, on parle aujourd'hui ensemble de comment réduire mon impôt avant la fin de l'année dans le cadre de la réduction IR-PME. Donc, les produits forestiers vous donnent droit à une réduction de 25% sur votre imposition sur le revenu. Nous, on conseille dans cette idée-là d'avoir une détention de 7 ans, puisque au bout de 7 ans, le fonctionnement de nos fonds nous permet de détruire en quelque sorte les parts. En fait, il faut avoir en tête que nos fonds sont des fonds à capital variable, c'est-à-dire qu'on va avoir différents niveaux de liquidité. Le premier niveau de liquidité, c'est la collecte. L'argent qui rentre sert ceux qui veulent sortir. Après, on va toujours garder 10% de liquidité à l'intérieur du fonds. Donc, ça permet aussi, en cas de manquement de collecte, on peut aider et autoriser les retraits. Dans le dernier cas, je vais créer un fonds de gestion, un fonds de remboursement et je vendrai mes actifs. Mais dans ce cas-là, 7 ans, c'est le bon horizon en fait, à avoir pour la réduction d'impôts, enfin, l'investissement dans le cadre de la défiscalisation. Ça vous permet aussi d'absorber les frais à l'entrée, puisque vous avez des frais, des commissions de souscription sur les produits forestiers, qui sont de l'ordre de 10%. Détenir sur une partie qui est plus longue va vous permettre aussi d'avoir vraiment les effets bénéfiques de la performance de l'actif forestier, puisque la forêt, là, l'image vient apparaître d'elle-même, c'est un actif de capitalisation, c'est assez simple à comprendre. Un arbre, si vous le laissez pousser, eh bien, il va croître, et s'il croît, il gagne de la valeur. Donc, on a plutôt intérêt à conserver assez longtemps ces actifs forestiers.
Oui, je le disais tout à l'heure, effectivement, on a de plus en plus de clients d'épargnants, d'investisseurs qui s'intéressent à cette classe d'actifs, qui ne s'adressent pas à tout le monde. On évoquait avec Bruno tout à l'heure le fait que le plan d'épargne retraite n'était pas forcément, s'adressait pas à tout le monde. Ça dépendait notamment de ses besoins, de ses attentes, de son niveau de fiscalité. De la même façon, on n'investit pas à tout le monde, n'investit pas dans la forêt. Il ne faut pas juste investir dans la forêt pour des raisons d'économie d'impôts, donc il faut faire attention. On a une question dans l'investissement forestier, en cas de sortie, les prix de part est fixe et variable. Voilà une question par rapport au marché secondaire. Comment est-ce que tu peux nous dire un mot sur le fait de sur la sortie? Tu évoquais la durée détention minimum conseillée. Comment ça se passe en termes de quand on veut revendre ses parts après 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans de détention?
On a plusieurs niveaux pour faciliter la sortie. Alors déjà, la sortie, elle va se faire à la valeur de retrait, ce qui est assez simple, c'est la valeur de souscription ou laquelle on retire les 10% de commission de souscription. C'est la valeur de retrait, c'est cette valeur que vous voyez demain matin dans votre portefeuille. Pour permettre d'avoir et de faciliter les sorties, en fait, il faut comprendre que dans notre gamme, on va avoir des fonds qui sont des fonds principaux, qui vont être des fonds de grande capacité et qui vont, d'ici 4 ou 5 ans, absorber les fonds que l'on construit pour la réduction IR-PME, qui vont être de facto des fonds qui vont être plus petits en taille, puisque la loi IR-PME, dans une de ses composantes, elle va limiter l'encours à 15 millions d'euros. Donc, en fait, chez France Vallée, vous allez voir, on va créer des fonds qui font 15 millions d'euros. Et quand on est arrivé à cet encours, on va en créer un nouveau. Donc, c'est pour ça que les fonds qui vous sont présentés par les conseillers Grisby ont toujours des numéros, ces fonds IR, mais à terme, ils vont remonter dans nos fonds principaux qui sont beaucoup plus gros. Alors aujourd'hui, le fonds principal, il fait 260 millions d'euros de capitalisation. Il a une collecte qui est permanente. Il a aussi une poche de cash qui va être beaucoup plus forte. On a aujourd'hui 26 millions de cash dans ce fonds. Donc, ça nous permet, en fusionnant ces fonds, de préparer la sortie des investisseurs, puisqu'on le sait que tout le monde ne va pas vouloir sortir au bout de 7 ans. Certains vont vouloir continuer puisqu'il n'y a pas de liquidation de ces fonds-là. On peut conserver, si on le souhaite, cet investissement pendant 20, 30, 40 ans. Mais au bout de 7 ans, on fait en sorte chez France Vallée d'avoir les reins assez solides pour pouvoir permettre ces retraits suivant les différents ordres de retrait que peuvent nous proposer les investisseurs et nous présenter plutôt les investisseurs.
Une dernière question, alors tu l'as évoqué tout à l'heure, mais un rappel sur l'avantage fiscal à l'entrée. Oui, il y a bien un avantage fiscal à l'entrée, c'est une dernière question qui vous a été posée.
Oui, tout à fait. Et il y a un... l'exploitation forestière, et donc le fait d'avoir un fonds qui a un intérêt à exploiter la forêt, on rentre dans le cadre de la loi IR-PME. Alors, il y a plusieurs systèmes et régimes fiscaux qui peuvent intégrer l'investissement forestier, mais nous, ce qu'on présente, c'est celui qui est le plus pertinent, et surtout, c'est celui qui va amener une plus forte réduction d'impôts aux clients. Donc, dans le cadre de la loi IR-PME, donc l'investissement dans les petites et moyennes entreprises, vous bénéficiez d'une réduction de 25% de votre impôt sur le revenu, et cette réduction de 25%, elle s'applique sur 100% de votre investissement. Je m'explique, si vous investissez 10 000 euros en bois et forêt, vous allez avoir une réduction d'impôt de 2,5%. Alors, il faut avoir bien en tête que ce régime IR-PME s'intègre dans le régime des niches fiscales à 10 000 euros, avec les plafonds de versement qui sont liés aussi à l'IR-PME. Mais ça va être la situation personnelle de chacun, et je recommande aux participants de ce webinaire de prendre contact avec leur conseiller Grisby qui saura très bien leur expliquer le montant, comment, pourquoi et tous ces éléments-là.
Merci Mathieu. Toute dernière question, une question sur justement les rendements espérés grâce à l'investissement dans la forêt.
Alors c'est une performance qu'on considère comme prudente, puisque c'est un risque ce sont des produits qui sont un risque 3,3 sur 7, donc c'est des produits qui peuvent convenir si vous avez un profil prudent jusqu'à un profil plus dynamique. L'objectif qui est présenté, c'est un objectif de 2,5% net des commissions de souscription et net des frais de gestion. Donc c'est l'objectif cash to cash. Sans les frais, en fait, je vous présenterai un objectif de 3,5%. Et c'est ça qu'il faut retenir. 2,5% à horizon de 10 ans. On considère qu'on aura un retour au prix de souscription au courant de la cinquième année, c'est-à-dire que si je conserve jusqu'à 7 ans, j'aurai une petite plus-value qui sera liée à cette performance-là, liée à l'investissement en forêt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de par les perspectives économiques qui existent sur la forêt et sur le marché du bois, de par l'inflation aussi, parce que l'inflation, pour nous, c'est plutôt les investissements forestiers sont des bonnes protections contre l'inflation, puisque la valorisation de nos forêts est faite sur le prix du bois. Donc, si on a une augmentation du prix des matières premières, on aura une augmentation de la valorisation de nos forêts et nos revenus aussi. Quand on va couper du bois, on va avoir ces revenus qui sont liés à la valeur de marché du bois. Si le bois augmente et s'il y a une inflation des matières premières, on va avoir aussi une performance qui va augmenter. Donc, l'objectif de 2,5%, pour donner un peu une idée, on l'a construit en 2019. On n'avait pas le caractère qui existe aujourd'hui. Donc, on peut s'attendre, si on a une inflation qui continue ou qui se maintient au niveau auquel elle est aujourd'hui, à avoir une performance qui soit peut-être un peu au-dessus plutôt de cet objectif-là. Mais si on vous le présente, on vous dira toujours 2,5% net des commissions de souscription et net des frais de gestion.
Super, très clair Mathieu pour toutes ces réponses et cette présentation. On est très heureux d'avoir partagé aujourd'hui auprès de nos participants deux offres qui sont chères à Grisby, cher dans le bon sens du terme, j'entends. et simplement, une précision, on n'investit pas sur des solutions aussi qualitatives soient-elles uniquement pour l'avantage fiscal, que ce soit l'investissement dans la forêt ou dans le PER. Il faut que ça s'inscrive dans une stratégie patrimoniale, il faut que ça réponde aux besoins, aux attentes et au profil de l'investisseur. Donc c'est pour ça qu'il y a un point qui est important à faire avec son conseiller, que ce soit en matière de diversification, de transmission ou de préparation à la retraite. D'ailleurs, Frédéric, je veux bien que tu nous précises un peu la démarche à suivre quand on se pose des questions en matière de défiscalisation pour qu'on fasse que l'ensemble des épargnants, des participants qui nous suivent aujourd'hui suivent la bonne démarche et fassent les choses dans l'ordre.
Avec plaisir. Alors effectivement, on n'a plus qu'un mois. Vous n'avez plus qu'un mois pour mettre en place une bonne stratégie de défiscalisation. Et donc, il va falloir être réactif, il va falloir se dépêcher, mais il ne va pas falloir se précipiter. Nous, ce qu'on propose chez Grisby, c'est une démarche finalement qui est en quelques étapes et qui peut être assez rapide. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien commencer en vous montrant l'outil qu'on a développé. Je me permets de faire une petite page de publicité pour cet outil, puisque grâce à notre outil, vous allez pouvoir déjà estimer votre marge de manœuvre. Ça, c'est la première chose à faire assez rapidement, c'est savoir finalement quel va être votre prochain impôt sur vos revenus de 2022. et finalement quelle va être votre marge de manœuvre. Et donc là, je vous présente en quelques secondes notre outil, puisque on a la chance d'avoir un outil très complet qui vous permet de calculer beaucoup de choses, dont l'impôt sur le revenu, mais tant qu'à faire, vous pouvez voir que vous pouvez calculer d'autres choses, l'impôt sur la fortune immobilière, les frais de succession et d'autres indicateurs qui peuvent vraiment vous aider à prendre des bonnes décisions. Et on parle de stratégie globale et évidemment avoir une vision d'ensemble est particulièrement important. Sachez que cet outil, il est gratuit, mais en plus, il a le mérite d'être partagé avec votre conseiller. Donc, si vous êtes suivi par un conseiller Grisby, vous avez une vision vraiment partagée de votre situation et donc votre conseiller peut vous accompagner dans les meilleures conditions. Si on zoome juste sur l'impôt, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, dans Grisby, vous allez pouvoir estimer votre impôt à l'euro près et vous allez retrouver finalement votre futur avis d'imposition, hein, puisqu'on parle des revenus de 2022. Vous allez pouvoir identifier quelles sont les économies que vous avez déjà réalisées et puis voir quelques indicateurs importants comme votre tranche marginale d'imposition et où est-ce que vous vous situez par rapport à cette tranche, ou encore votre utilisation actuelle du plafonnement des niches fiscales. Tout ça, bien entendu, ça va vous permettre de identifier ce qu'il est encore possible de faire et donc de réaliser une simulation, par exemple, pour voir quels seraient les dispositifs qui pourraient répondre à votre situation. Donc là, vous voyez sur ce compte de test, qui a un impôt de plus de 40 000 euros, hein, un joli impôt donc qui part tout simplement à l'État. Vous voyez qu'il y a des solutions possibles. On vous les a présentées tout à l'heure, nos deux intervenants. Il y a la possibilité, par exemple, d'investir dans des parts de groupements forestiers, dans un PER, mais il existe aussi d'autres solutions. Donc en fait, vous pouvez réaliser cette simulation et voir directement sur plusieurs profils des solutions chiffrées à l'euro près qui vous permettraient de réduire cette imposition. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on vous invite à faire. On peut aller assez loin sur cette simulation puisqu'on peut la modifier, ajouter des niches fiscales. Par exemple, pour ceux qui sont habitués à faire des dons, ils peuvent ajouter des dons. Vous pouvez le faire ici et donc faire une simulation précise de votre situation et de ce qu'il est possible de faire. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on vous invite à faire. Vous pouvez éventuellement et bien entendu même le faire avec un conseiller, mais cet outil est gratuit et il faut juste savoir que c'est disponible sur notre outil web et pas sur l'application mobile. On a vraiment un outil web qui est beaucoup plus complet, qui vous permet de faire beaucoup de simulations, mais cette partie-là n'est pas disponible sur l'application mobile. Donc ça, c'est la première étape. Finalement, estimer votre marge de manœuvre. La deuxième étape ensuite, c'est, une fois que vous avez identifié les solutions, c'est de voir quand même avec un conseiller, ça c'est une étape incontournable, voir avec un conseiller si c'est adapté, s'il faut mettre en place une solution de défiscalisation. D'ici la fin de l'année, là, il nous reste un mois. Si des dispositifs immobiliers, par exemple, vous intéressent, bah, objectivement, c'est beaucoup trop tard. Il faut être extrêmement prudent en plus sur ce type de dispositif. Je pense par exemple à la loi Pinel. Clairement, c'est déjà c'est trop tard. Et puis en plus, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté et dont on n'est pas totalement friand chez Grisby. Donc, il faut voilà revérifier que la solution que vous pouvez mettre en place va être intéressante pour votre capitalisation future, pour votre stratégie patrimoniale et pour votre avenir tout simplement. Donc faites le point avec un conseiller, vous avez la chance chez Grisby de pouvoir être accompagné vraiment dès que vous le souhaitez par votre conseiller et donc vous allez pouvoir vraiment faire le point, reprendre tous les éléments de votre situation, faire un point sur vos projets, puisque évidemment les simulations que je peux vous présenter à l'écran, on ne va pas avoir en tête tous vos objectifs financiers, vos projets futurs. Donc faites le point avec un conseiller et celui-ci sera en mesure de vous dire rapidement si ça vaut le coup d'ici la fin d'année de mettre en place une solution. Et enfin, dernier point, eh bien, s'il y a une solution qui correspond à votre situation, après la souscription donc, peut être assez simple, ça se réalise 100% en ligne, on a accès à des offres très pertinentes, comme vous l'avez vu à l'instant avec nos deux partenaires qui vous ont présenté leur solution. Donc tout ça, ça peut être mis en place rapidement. On a accès à des offres donc très performantes. On vous les propose dans des conditions particulièrement attractives. Le PER, par exemple, on le propose sans aucun frais d'entrée. Donc c'est vraiment une façon d'accéder très facilement à des très bonnes offres. Pareil pour les groupements forestiers. Donc voilà, de manière très rapide, vous pourrez mettre en place une bonne solution à des conditions particulièrement attractives avec Grisby.
Merci beaucoup Frédéric pour cette belle conclusion. Ça sera le mot de la fin. Moi, simplement pour vous repréciser que nous allons vous envoyer le replay, donc vous allez pouvoir revoir si vous le souhaitez ce webinaire à tête reposée. Vous pourrez également le transmettre à l'un ou l'autre de vos proches. N'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Merci à nos intervenants et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.
Merci,
à tous, à bientôt.